Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Bonjour Alexis. On est ici à l'exposition au MoCo que tu as curatée avec Anya Harrison et aussi
Pauline Faure et Denis Zuruk également qui nous a rejoint. Et bien, comme tu l'as dit, là, on est au MoCo dans l'exposition Éprouver l'inconnu, qui est donc une des trois expositions de la saison Art et Sciences, qui se compose donc de deux expositions côté MoCo Panacé, avec Ivana Basic et Pierre-Renal Brunet, et Éprouver l'inconnu ici, une exposition collective avec une trentaine d'artistes, sur lequel on a travaillé pendant un an et demi, avec, tu vas partir aux sources avec Anya et Pauline. Donc l'idée, c'était une proposition de Numa Ambursin, directeur général, qui souhaitait une saison Art et Sciences avec un comité scientifique composé d'une quinzaine de personnalités de Montpellier, aussi bien de l'université, du CNRS, avec des profils assez divers de biologistes, de chirurgiens, qui nous ont accompagnés et on s'est intéressé aux parallèles qu'il peut y avoir dans les processus de recherche, d'expérimentation artistique ou scientifique, notamment avec cette prise en compte de l'aléa, comment la sérendipité peut faire advenir une forme ou faire une nouvelle découverte, aboutir à une nouvelle découverte. Également sur la relativité du savoir, cette idée que en science, il y a en permanence aussi une remise en question et une prise en compte de la subjectivité. On a parfois tendance à oublier dans les sciences, mais qui amènent à un point de vue individuel une approche sensible aussi, et donc à des mises en commun de savoir.
Est-ce qu'on commence à se rapprocher de quelques œuvres ? J'étais par exemple tout de suite attirée par ce miroir concave sur lequel se promènent des dents.
Exactement. Donc ça, c'est une œuvre de Cooper Jacoby qui s'appelle Mutual Life. Cooper Jacoby, c'est un jeune artiste américain qui est basé à Paris. Et donc, comme tu as dit, il y a une sorte de miroir concave qui est un peu comme un iris d'œil et aussi une horloge. On voit qu'il y a des dents, bon, une qui se déplace assez vite. Et donc, il s'agit en fait des dents de lait de l'artiste. Et comme tu peux voir, ces dents de lait ont encore leurs racines. Parce que Cooper Jacoby avait la particularité d'avoir des dents de lait qui ne tombent pas toutes seules. Donc il a dû se les faire extraire et il les a conservées. Et il joue ici sous l'aspect comme d'une horloge et qui peut évoquer notamment le fait que les dents sont utilisées en méthode scientifique pour dater l'âge d'un individu, que ce soit un animal ou un humain, avec cette forme qui vient comme nous regarder, nous refléter en même temps. On aimait bien pour ces premières salles avoir une approche comme ça des différentes parties du corps, des différents orifices dans lesquels on va rentrer, qui vont être très sinueux, l'œil, l'intestin, qui fait qu'on va cheminer comme ça, comme dans les veines ou dans les cheminements de la pensée.
On continue ?
Ouais.
Alors là, on est devant une œuvre sonore, pas seulement, mais aussi...
Oui, qui est toujours une œuvre de Cooper Jacoby. Et donc, on entend ces voix robotiques. On va s'en rapprocher un peu. On voit il y a donc comme des caméras avec des microphones de voix qui sont produites à partir de contenus générés sur les réseaux sociaux de personnes décédées. Donc il a nourri une intelligence artificielle avec tous les contenus produits. Une œuvre correspond à une personne, s'il y a un compteur, où c'est la durée de la... C'est le temps écoulé depuis la mort de cette personne. Et donc cette personne vient continuer à produire, comme produire du discours, via cette IA qui l'a fait parler. Donc cette caméra vient repérer les visiteurs en fonction... Il y a toute une combinaison possible en fonction... Si les œuvres sont seules, elles peuvent interagir entre elles, elles s'entendent. S'il y a un groupe, s'il y a une seule personne, l'œuvre vient comme ça, un peu pallier dans les interstices d'un discours qui aurait pu avoir lieu de ces personnes.
Donc il y en a plusieurs qui nous regardent, comme ça, qui nous suivent.
Mm-hmm. Parfois, quand on quitte la pièce, et voit son œuvre venir, on va leur paraître carrément.
Alors cette personne est morte depuis 8 ans, c'est ça ?
16 ans.
Et 157 jours et 15 heures et 30 minutes.
Ce qu'on voit ici dans une vitrine, il s'agit d'objets scientifiques. On a les prospectés effectivement dans les collections de l'université Montpellier. Et comme tu l'as dit, c'est des papiers mâchés du docteur Ozu, qui au 19e siècle a mis au point cette méthodologie de représenter des organes, aussi bien de végétaux, d'animaux, humains, qui ont été. Donc c'est du papier mâché qui a été coulé. Et on peut. Donc, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Là, on voit une grande sangsue, à faire 50 cm, avec tout le système de vascularisation. Et donc, il y a une méthodologie qui a permis d'éviter d'avoir besoin de faire de la dissection. Et donc, on a une vocation pédagogique qui était utilisée dans les universités.
C'est très fin. Alors, il y a plein de petits numéros qui nous permettent de déboîter.
Exactement. Exactement, donc c'est vraiment s'imbriquer, se déboîter et pouvoir nommer les différentes parties. Mmh. Avec cette forme qui, une fois décontextualisée, on peut projeter beaucoup de choses sur ce que c'est. Donc il y a ces cartels qui viennent à la fois redonner du contexte, aussi bien avec la partie des cartels écrits par l'équipe curatoriale que par le regard des scientifiques. Et donc c'est un des fils rouges dans l'exposition. On a comme ça ce double regard. Des scientifiques qui ont rédigé des textes en assumant une approche sensible et subjective de leurs textes et ceux qu'on a écrits avec les artistes.
Voilà, on entre dans un laboratoire tout éclairé de jaune.
Comme tu l'as dit, on est dans cette sorte de laboratoire tour de contrôle. Donc on a 6 écrans au mur avec ces 3 ordinateurs sur un bureau avec une bande son assez stressante. Je sais pas ce que tu ressens, mais il y a quelque chose d'accélération d'image par moment avec des créatures sous-marines qui sont venues des abysses. Ça, c'est une œuvre de Joey Holder qui est une artiste britannique. C'est une nouvelle production qui a été conçue, coproduite par le MOCO, et on a le soutien de Fluxus. Et Joey Holder a travaillé avec un directeur de recherche, Benoît Charlot, qui travaille au CNRS à Montpellier, qui travaille surtout sur les neurosciences. Et donc ils ont eu ces discussions sur cette frontière assez poreuse entre le vivant et le non-vivant. Et Joey a nourri une intelligence artificielle avec des imageries médicales, de la biologie, notamment avec des représentations de systèmes nerveux de méduses. Et on arrive à ces formes hybrides d'animaux, parce que l'intelligence artificielle a fonctionné un peu comme le fait l'évolution sur des millions d'années, en hybridant les formes qu'au niveau génétique, et là qui serait une forme d'anticipation. Donc c'est comme si on était dans une tour de contrôle d'un monde extérieur dont la temporalité est ambiguë, et on ne sait pas très bien si ces créatures sont potentiellement dangereuses ou qui jouent. Donc elle a vraiment joué sur nos désirs de contrôle du vivant, mais aussi nos peurs, c'est pas évoqué, avec bien sûr tout simplement ce constat que une grande partie des organismes vivants, notamment marins, sont encore inconnus et dans des zones, des interstices qu'on n'a pas encore explorées, et de nous rappeler qu'on est une seule espèce parmi d'autres.
Les écrans derrière, ils s'allument jamais ou aussi
c'est des écrans en plexiglas qui viennent comme ça créer ce reflet, cette démultiplication. Mmh.
Là, on arrive dans un espace où il y a des plantes vivantes, encastrées dans une table.
Donc là, on est dans une partie de l'exposition où on a plusieurs artistes qui sont intéressés au biohacking, donc la démarche de biopiraterie. Donc là, c'est un collectif d'artistes qui ont conçu Plant Sex Consultancy, où ils ont audité 5 plantes qui ont des problèmes de reproduction. Et donc, ils nous proposent avec beaucoup d'humour des sex toys pour ces plantes qui vont résoudre potentiellement des problèmes de contamination par des MST, qui sont en fait des spores de champignons. On va avoir cette plante carnivore qui a tendance à manger ses pollinisateurs, et donc une proposition alternative de fécondation en attirant les pollinisateurs via du nectar. Et donc ils ont joué vraiment sur notre côté très anthropocentré, comment on veut toujours prendre soin d'autres espèces en projetant nos propres désirs sur elles. Alors là, la bande son qu'on entend, c'est une œuvre de Mary Magic qui s'appelle Housewives Making Drugs. Et c'est une œuvre qui a été créée en 2017, mais qui résonne encore étrangement avec l'actualité. Parce que Mary crée cette œuvre lors du premier mandat de Trump, lorsque Donald Trump dérembourse la prescription d'oestrogène pour des personnes qui font leur transition de genre. Et Mary Magic propose sous cette forme de TV show à l'américaine, avec beaucoup d'humour, un atelier pour distiller sa propre urine ou celle de ses proches pour en extraire de l'oestrogène. Et donc d'ailleurs c'est un vrai atelier qu'on va faire dans un peu moins d'un mois ici à Montpellier, avec un groupe d'étudiants et étudiantes du MOCO ESBA et de l'Université de Montpellier, domaine des sciences, où les participants pourront à la fin repartir avec leur petite dose d'oestrogène qu'ils auront extrait de leur urine, dans cette idée que de biopiraterie, qu'on peut se réapproprier nos corps, sortir d'un rapport de dépendance ou de domination sur nos corps, que des institutions qui sont forcément politisées peuvent nous inculquer, et donc avoir ce rapport plus horizontal au savoir, avec une méthode très do-it-yourself, où on va pouvoir obtenir une substance qui était auparavant une sorte de monopole des médecins.
Là, on arrive à la grande salle.
Donc effectivement, là, sur ce plateau, on a une tonalité assez différente. On a joué sur une mise en tension entre ces représentations de corps de Lubos Spli, qu'il a faites à partir de vues, de dissection. Il s'est beaucoup intéressé à la représentation du corps, notamment une fois qu'il a été diagnostiqué schizophrène. Il a essayé de mieux comprendre son trouble. Et donc on voit par exemple des petits détails. Bon, il y a tout le processus de création qui est visible, c'est très foisonnant. On a à la fois, il va nommer les différentes parties. Tout en haut, par exemple, on voit tous ces chiffres d'heures à laquelle il commence et il termine. Il y a vraiment ce protocole très minutieux de garder trace de sa durée de travail, de la présentation du temps. Et qui vient en face de l'œuvre de Yun-Chul Kim. Cette machine qui vient transformer un liquide qui prend une forme de à la fois fusée ou engin spatial, avec ces liquides, ces mix, ces cristaux iridescents qui en permanence donc sont mélangés pour produire cette substance. Et qui vient apporter un côté assez futuriste, voire une mise en tension sur la transformation probable de nos corps ou de la conception du vivant.
Ces petites pochettes qui sont par terre, elles font partie de cette œuvre ?
Alors non, les petites pochettes par terre, c'est pour l'atelier des enfants,
okay.
Des bébés.
D'accord.
Donc ils se sont inspirés, sont inspirés de l'œuvre pour mettre sous plastique un liquide comme ça, avec des paillettes.
Très bien.
Donc là, de la même façon, on a continué à jouer sur les paramètres aussi qu'il y a dans l'exposition. Donc notamment toute cette partie invisible qui est dans l'air, l'humidité de l'air, que Isabelle Andriesson nous rend beaucoup plus concret avec ces deux sculptures dites les ghouls, où on va avoir un système de refroidissement d'air. Là, on peut voir sur le mur, il y a une équipe de plombiers qui ont travaillé pendant plusieurs jours avec l'équipe technique pour donc amener ce refroidissement de la partie supérieure de la sculpture qui est faite en aluminium. Et donc on voit que dessus, il y a de la condensation, il y a des petites gouttes qui vont venir ruisseler sur la céramique juste en dessous, dans laquelle l'artiste Isabelle Andriesson a inclus des oxydes, des éléments qui vont avec l'eau progressivement dans l'exposition sortir. Donc on voit quelque chose qui doit être de l'or, de l'oxyde de cuivre, quelque chose qui est sûrement de l'oxyde de fer, et qui vient comme ça ruisseler, presque fleurir. On a l'impression que ce serait une forme organique, vivante, alors qu'en fait c'est uniquement des éléments dits minéraux ou métalliques, et qui évoquerait comme une forme de transformation ou de qui pourrait continuer après notre disparition, et à la fois qui rend visible des interactions chimiques de façon très très concrète.
Alors là on descend
progressivement. On a une ambiance qui va être beaucoup plus dans la pénombre, beaucoup plus panisée. Un groupe qui est en train de visiter, le groupe des bébés. Bonjour. Et on arrive dans cette salle dédiée à Guadalupe Maravilla, avec deux grands totems, avec des gongs, et un vrai tableau au mur. Guadalupe Maravilla, lui c'est un artiste qui est né au San Salvador, et qui a quitté à l'âge de 8 ans, le San Salvador pour fuir la guerre civile, s'installer aux États-Unis. Et il a fait cette longue migration sans ses parents, via des passeurs. Et à l'âge de 30 ans, il va développer un cancer que lui va attribuer à des traumatismes liés à cette migration non accompagnée. Donc il va se faire soigner en radiothérapie. Et pour atténuer les effets secondaires du traitement, il va expérimenter des bains sonores, qui sont une pratique qu'on expérimenté dans différentes parties du monde, qui sont donc notamment en Amérique centrale, où il y a ces formes de savoir, de guérison plus vernaculaire, avec une transmission orale. Et depuis, Guadalupe Maravilla crée ses œuvres qui retracent son parcours, ses expérimentations, avec tous ces petits éléments collectés qui font référence à des plantes, à des matériaux qui vont être utilisés dans des méthodes de guérison. Et il officie en tant que sound healer, donc où il crée des cérémonies de bains sonores où les visiteurs peuvent, en présence de l'artiste, les gongs sont activés et expérimenter ces cérémonies. Donc c'est la partie de l'exposition qu'il y ait aussi cette approche. Se rappeler que une grande partie des connaissances de la science sont aussi souvent basées sur des connaissances autochtones qui ont été parfois pillées sans être sourcées, et que la limite, la frontière entre science et parascience est souvent reconsidérée à un moment. Et donc c'est aussi cette relativité du savoir.
Bonjour Anya. Alors il y a Anya Harrison qui nous rejoint. Elle est aussi curatrice de l'expo. Tu veux prendre la relève?
Non, pas de 6 heures.
Mais on a encore une dizaine de minutes.
De Chamberata, donc qui vient de la collection du MAC à Lyon. Dans le titre.
L'escalier.
Et en fait, il s'agit de plusieurs terrariums. Donc ici, en fait, on en montre 5 sur 7 terrariums. Donc, de ce terrarium, donc avec des qui sont dans une salle mise dans l'obscurité quasi totale, et en fait donc à l'intérieur de chaque terrarium il y a des plantes de jasmin de nuit, mais en fait donc c'est une espèce de jasmin qui fleurit que pendant la nuit, et du coup en fait donc il joue effectivement sur inverser un peu de jour et nuit pour les plantes pour que en fait pendant la journée donc, sont amenés à croire hein, en fait qu'il s'agit de la nuit, donc du coup en fait ils sont censés de continuer donc la fleurissant, et en fait quand le moko est fermé au public et la nuit en fait ça devient le jour.
Et là ils fleurissent à l'intérieur, c'est des fleurs.
Mais justement là, ça
l'idée joue, c'est
ça joue sur cette ambiguïté.
C'est
cette expérience en cours.
Voilà. D'accord, ouais, très cette bien.
Aléa de est-ce que les plantes vont fleurir ou non.
Ouais.
Pour dégager ce parfum extrêmement fort.
On te suit.
À côté de une présentation enfin, très très mélangée et la plus mélangée je pense de cette exposition, donc avec des arbres têtus et coups d'eau qu'on peut voir aussi dans la salle précédente, ainsi que des œuvres, des objets issus des collections universitaires enfin, de Montpellier, dont on voit donc les quelques exemplaires des oiseaux donc de l'Institut botanique et des squelettes ce qu'on appelle des squelettes floraux. En fait, tout mélangé ensemble. Il y a donc des artistes japonais qui travaillent plutôt dans les années 60-70, etc. Et dont, l'œuvre est très très protéiforme, donc de la sculpture, donc, du travail donc, des œuvres sur papier, et qui à chaque fois en fait sont un mélange des formes à la fois botaniques, à la fois anatomiques. Donc on est devant une œuvre qui s'appelle donc, le portrait de l'artiste, mais avec cette nuance un peu apocalyptique, post-apocalyptique. Apocalyptique.
C'est une cage d'oiseaux, on voit une tête surgir qui peint avec un pinceau.
Avec un pinceau, mais en fait, il y a toujours en fait, enfin, plein de détails, un peu, c'est déjà assez crâne, un peu, enfin, on peut dire. Donc là, enfin, il est en train de peindre ce qui résonne d'être soit excrément humain, soit donc, mais qui a encore un peu une forme phallique aussi. Donc la forme de phallus en fait, revient assez souvent enfin, dans son travail. Donc on a des petits cœurs en fait, qui poussent. Un petit cœur qui pousse d'un peu de... Voilà, donc,
Et à côté, il y a un dessin aussi qui est...
De King Kukoi.
Ouais.
Un dessin de King Kukoi, qui est un assez petit format, qui représente cette, comme une coupe où on voit l'intérieur d'une coquille d'escargot, dans laquelle l'escargot est blotti, et il y a une petite pensée sauvage qui est venue comme dans la coquille d'escargot, comme une rencontre entre les deux, qui crée quelque chose d'assez sensuel. Et King Kukoi, elle a cette technique de dessin extrêmement minutieux où il y a une sorte de... à la fois qui peut évoquer des dessins botaniques et en même temps il y a quelque chose de très sensuel où elle va justement passer outre les frontières rigides entre ce qui doit être plante et animal, où on a ici comme cette pensée qui a une personnalité qui devient une rencontre amoureuse entre deux êtres qui sont normalement censés se manger.
C'est du rose... du vert clair, du bleu clair, donc c'est une palette très comme ça.
Très doux.
Mm. Et c'est réglissé, surtout dans cette salle, donc comme je disais tout à l'heure, donc, il y a donc, des oiseaux en paille qui viennent de l'Institut botanique, donc les squelettes floraux, enfin d'autres donc, dessins, donc, des dessins, donc des planches anatomiques, donc des dessins donc, qui sont présentés à même titre que ce qu'on veut appeler donc les œuvres d'art en fait, donc des artistes plus reconnus comme donc Anna Zemankova et Emma Conte, donc Tim Kudo, et ça revient donc à cette volonté dès le début de présenter tout en fait sur le même niveau en fait, de démocratiser en fait, en quelque sorte hein, donc le repenser un peu enfin, donc le statut aussi symbolique en fait, la valeur symbolique de chaque pièce porter un regard sur donc ces œuvres issues des collections universitaires qui à la base ont une fonction ou avaient une fonction pédagogique aussi, mais en même temps peuvent tout à fait être voilà donc pensées, vues, appréciées comme donc pour le côté enfin purement esthétique aussi et conceptuel.
Peut-être un dernier mot sur ce dessin au fond. Alors peut-être oui.
Donc là effectivement il y a un dessin de Emma Kunz qui a des formes assez géométriques. Donc Emma Kunz c'était une guérisseuse suisse qui avait la particularité de concevoir ses œuvres souvent donc en un seul jet. Elle disait avoir une inspiration qui venait d'un autre monde. Donc elle travaillait parfois avec des pendules. Et donc les dessins étaient faits en une fois sur du papier millimétré. Certains des dessins sont dits avoir anticipé certains événements, notamment l'apparition de la bombe nucléaire.
Enfin, la bombe de Hiroshima, en fait.
Ouais, exactement. De la catastrophe de l'explosion de la bombe d'Hiroshima. Et ici, ce dessin a été utilisé pour illustrer Lion Hay, qui est une poudre curative à base de roche que Emma Kunz a commercialisé, qui est une poudre qui était prélevée dans sa propriété en Suisse et qui est encore commercialisée aujourd'hui pour ses vertus thérapeutiques, notamment dans les pharmacies en Suisse.
Merci beaucoup.
Merci Nadia.
Grammaire fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.